Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Première partie. Invité aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre du Travail. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury pour un grand jury en deux parties, exceptionnellement consacré à la crise sanitaire et à ce nouveau confinement. En seconde partie, nous recevrons l'épidémiologiste Arnaud Fontenay, membre du Conseil scientifique et de l'Institut Pasteur, pour tenter d'y voir plus clair sur la suite de l'épidémie et comment l'enrayer. Mais tout de suite, avec nous dans cette première partie, Elisabeth Borne, ministre du Travail. Bonjour Elisabeth Borne, merci d'être avec nous et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour.
Amélie.
Bonjour.
Alors Elisabeth Borne, ministre des Transports, jusqu'en juillet dernier, vous avez déménagé au ministère du Travail au dernier remaniement, au moment où la pandémie connaissait un coup d'arrêt. Coup d'arrêt malheureusement éphémère, puisque la France subit un nouveau confinement depuis maintenant 3 jours, avec son cortège d'inquiétudes, le chômage partiel ou pire, la perte de son emploi. Nous allons en parler, bien sûr, mais l'actualité, c'est d'abord une fronde des petits commerçants dans plusieurs villes contre la fermeture de leur commerce. Amélie Carouer.
Alors, vous le voyez, plusieurs commerçants ne veulent pas fermer, ou en tout cas, s'ils sont fermés, contestent cette décision. Allez-vous faire un peu machine arrière, en tout cas, lors de la clause de revoyure dans 15 jours?
Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la situation sanitaire est grave. Quand on a 40 à 50 000 nouveaux cas par jour, plus de 60% des lits de réanimation occupés par des patients atteints du Covid, qu'on a un décès dû au Covid toutes les 4 minutes, ça veut dire que la situation est grave et qu'il faut un coup de frein brutal pour casser la dynamique de l'épidémie. Donc c'est le sens des mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Après, moi j'entends le désarroi et la colère des petits commerçants. Mais voyez, si on ouvre les commerces, finalement il n'y a plus de confinement. Si chacun va faire ses courses, on va avoir de l'affluence dans les rues commerçantes des villes. Et donc c'est comme s'il n'y avait pas de confinement.
Pour vous c'est non,
faut pas laisser ouvrir les commerces. Ce que je dis, c'est que par ailleurs, les règles ne sont pas les mêmes qu'au printemps. Et je pense que c'est important que tous les Français l'entendent. Ils peuvent continuer à acheter par téléphone, envoyer un mail, acheter sur le site internet du commerçant, si le commerçant a un site, et puis aller chercher des commandes ou les faire livrer.
Le fameux click and collect, Elisabeth Borne. Mais est-ce que ça veut dire que dans 15 jours, vous direz peut-être vos commerces vont pouvoir rouvrir? Est-ce que c'est une perspective envisageable dans 15 jours?
Je pense qu'on souhaite tous que les commerces puissent rouvrir le plus vite possible. Et on souhaite tous leur permettre de maintenir le maximum d'activité. Mais pour que ce soit possible, il faut vraiment qu'on arrive à casser la dynamique de l'épidémie et donc que chacun entende qu'il faut effectivement réduire les interactions sociales, réduire le brassage dans les rues. C'est comme ça qu'on pourra sortir le plus vite possible du confinement.
Marion Mourgue.
Mais quand vous voyez des maires de différentes couleurs politiques qui prennent des arrêtés pour que les commerces de proximité puissent réouvrir, vous leur dites quoi? Qu'ils sont irresponsables ou qu'au contraire, ils comprennent aussi une situation économique très compliquée sur le terrain?
Écoutez, je ne pense pas que ce soit responsable. Vous voyez, moi je voyais le maire de Béziers qui déambulait dans les rues en disant « ouvrez les commerces ». Ben, ça n'est pas responsable, d'abord parce que les arrêtés sont illégaux et donc que ça peut pousser les commerçants à se mettre en infraction par rapport aux règles. Donc à ce titre, ça n'est pas responsable. Et puis moi, je me demande, vous voyez, les maires qui prennent ces arrêtés, qu'est-ce qu'ils disent au personnel soignant? Qu'il ne faut pas respecter le confinement? Et qu'est-ce qu'ils diront dans quelques semaines si on a des hôpitaux totalement débordés? Donc je pense que oui, on aimerait tous dire aux commerçants, voilà, ouvrez. Aujourd'hui, ça n'est pas possible d'ouvrir sans contrainte. On souhaite qu'ils maintiennent au maximum leur activité. Vous évoquiez le click and collect. Donc chacun peut commander, retirer ses commandes, les payer en magasin. Voilà, et on se rend bien compte que ça ne va pas permettre de maintenir l'activité. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir des aides massives.
Aucune marge de négociation à cette heure pour une réouverture des commerces. C'est ce que vous nous dites, Elisabeth Borne.
Je dis qu'il faut que chacun s'empare des outils qui existent pour permettre de poursuivre l'activité.
Comme d'habitude.
Mais que continuer à faire ses courses comme avant, comme si de rien n'était, je pense que ça ne va pas être possible dans l'immédiat.
Madame la ministre, il y a une demande très particulière concernant les librairies. Anne Hidalgo, elle parle d'initiatives concernant les librairies indépendantes. Pour elle et pour elle seulement, ce n'est pas du tout envisageable non plus.
Écoutez, Je pense que moi, je fais partie des Français qui auraient souhaité que les librairies indépendantes soient ouvertes. Moi, je fais mes courses chez mon libraire, j'achète mes livres chez mon libraire à côté de chez moi. Je pense que si on ouvre les librairies, on peut peut-être craindre que les autres commerçants disent « mais pourquoi pas moi ?» Donc, essayons de continuer à chercher ensemble des bonnes solutions pour permettre de maintenir le maximum d'activités. On peut aussi téléphoner à son libraire. Son libraire a souvent un site et on peut aussi acheter et venir chercher ses commandes.
Vous êtes ministre du Travail. Est-ce que vous ne voyez pas une concurrence déloyale qui s'installe alors que des grands groupes peuvent rester ouverts et que les petits espaces, les commerces de proximité qui peuvent organiser un passage limité de leurs clients ne peuvent pas? Est-ce qu'aujourd'hui, cette règle n'est pas faussée?
Alors, il y a effectivement une concurrence qui peut être jugée déloyale. C'est pour ça qu'avec Roselyne Bachelot, Bruno Le Maire a demandé aux grandes surfaces de fermer les rayons de livres, les rayons culturels. Mais je dis, moi vraiment, vous savez, on évoque les maires qui prennent des arrêtés pour inciter les commerçants à ne pas respecter le confinement. Il y a aussi des maires qui ont pris des très bonnes initiatives. Moi, je pense par exemple à la ville de Dourdan, qui a fait une plateforme sur laquelle on peut accéder à tous ces commerces de proximité. Donc je pense que si on veut prendre des initiatives...
Vous comprenez quand même que des gens qui aujourd'hui vont au supermarché peuvent acheter des vêtements, mais en même temps qu'ils ne peuvent pas faire dans un petit commerce, ça les interpelle quand même, autant les clients que les commerçants.
Je comprends, et on va continuer des discussions avec les grandes surfaces. Vous savez, certaines enseignes avaient proposé de vendre les produits des petits commerçants. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à chercher ensemble des solutions intelligentes pour qu'on puisse effectivement à la fois respecter un confinement qui soit efficace et en même temps permettre aux petits commerçants de poursuivre leur activité.
Est-ce que vous craignez au sein de l'exécutif un embrasement, une colère, plus qu'une fronde, une colère, un embrasement type même gilet jaune? On lit encore dans Le Parisien hier que certains conseillers le craignent.
Je pense qu'il faut que chacun soit responsable. Vous voyez, je le redis, si on a des maires qui incitent les commerçants à ne pas respecter les règles, évidemment, ça ne va pas dans le bon sens. Donc si on peut être tous responsables, se dire que plus on respecte le confinement, plus il sera efficace, plus on pourra rouvrir progressivement les commerces, je pense que les choses se passeront mieux.
Vous craignez oui ou non un embrasement?
Moi, je fais appel à la responsabilité de chacun. Je redis aux commerçants que moi, j'entends leur désarroi, que je peux comprendre leur colère, qu'on souhaite tous qu'ils puissent rouvrir le plus vite possible et qu'on va par ailleurs les accompagner beaucoup plus fortement que ce qu'on a fait au printemps. Vous savez que le fonds de solidarité qui était de 1500 euros par mois est maintenant de 10 000 euros. Et puis vraiment, on est prêt à les aider pour pouvoir maintenir une activité de commande à distance, de retrait en magasin, de livraison. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent être trouvées aussi sur ce plan-là.
Alors, vous êtes ministre du Travail, et en particulier aujourd'hui, Elisabeth Borne, du télétravail, sauf qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et vous allez, je l'espère, nous éclairer. Y a-t-il encore trop de gens physiquement au travail aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez constaté? Et est-ce qu'il y aura des sanctions?
Moi, je pense que les chefs d'entreprise à qui on dit maintenant depuis le début du mois d'octobre en particulier qu'il faut passer au maximum au télétravail entendent les appels. Et je pense que d'un point de vue culturel, les choses ont changé. Je rappelle qu'on devait être à 5% de télétravail en 2019. Dans l'enquête que mon ministère a faite mi-octobre, 50% des salariés dans les métropoles nous disaient qu'ils avaient partiellement télétravaillé. Donc je pense que les messages y passent. Là, c'est clair, je l'ai dit, ça n'est pas facultatif le télétravail. Pour toutes les activités qui peuvent se faire à distance, on doit être
mais
en télétravail.
Mais ce n'est pas obligatoire non plus.
C'est obligatoire.
Non, la loi,
si on reprend d'un point de vue juridique les choses, sans embêter forcément trop longtemps vos auditeurs, la loi donne à l'employeur une obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés.
Mais donc, s'il le peut.
La façon dont on traduit cette obligation, c'est le protocole national en entreprise qui existe depuis le déconfinement du printemps. Et donc, ce qui est inscrit dans ce protocole, c'est une obligation pour les entreprises. En l'occurrence, ce qu'on a dit, c'est que toutes les activités qui peuvent être faites à distance doivent être télétravaillées. Donc si 100% de vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. C'est ça, très clairement.
Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce que vous allez envoyer là, dans les jours à venir, dans les entreprises, des inspecteurs du travail pour voir si cette règle est respectée.
Ce que je voudrais dire quand même, c'est que moi je compte d'abord sur le dialogue social. Vous savez, ça se passe dans les entreprises, une discussion entre la direction et les représentants des salariés. Et il faut quand même avoir en tête que ce protocole, qui s'applique maintenant depuis des mois, il a obligé toutes les entreprises à changer vraiment fortement leurs organisations de travail, et ils l'ont fait. Il y a eu 55 000 interventions de l'inspection du travail depuis le déconfinement en entreprise pour accompagner, pour conseiller et pour contrôler, et il y a eu 300 mises en demeure. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise, quand on donne des règles, ils savent que c'est leur responsabilité et ils les appliquent. Et donc, dans les jours qui viennent, bien évidemment, si des salariés ont l'impression qu'ils pourraient être en télétravail et qu'ils ne le sont pas, d'abord, ils peuvent en parler à leur manager, ils peuvent aussi en parler aux représentants syndicaux dans l'entreprise, et ils peuvent saisir l'inspection du travail s'ils ont l'impression que leur employeur n'applique pas les règles.
Marion Mourgue.
Mais concrètement, ça veut dire que dans la fonction publique, les employés peuvent aussi faire valoir leur droit de retrait ou pas ?
Alors, droit de retrait, c'est encore autre chose. Dans la fonction publique, c'est la même règle qui s'applique. Toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être télétravaillées. Les guichets doivent rester ouverts. C'est important que les gens qui ont des difficultés puissent trouver un guichet. Et ensuite, il y a un certain nombre de postes dans lesquels vous pouvez faire une partie de votre tâche à distance. Et bien, dans ce cas-là, vous télétravaillez.
Donc vous les autorisez.
Et puis, une partie du temps, vous revenez pour faire la partie du travail que vous ne pouvez pas faire à distance. C'est la même règle.
Elisabeth Borne, une DRH, par exemple, nous écrit, son prénom est Fanny. Elle nous dit, si l'employeur souhaite conserver une ou deux journées de présence pour maintenir les liens au sein du collectif de travail, comme c'est formulé dans le protocole, en a-t-il le droit si
Non, ça n'est pas formulé exactement comme ça. Moi, je pense qu'en temps normal, 5 jours sur 5 de télétravail, ça n'est pas une bonne formule parce qu'effectivement, il faut faire attention au collectif de travail, il faut faire attention à l'isolement des salariés. Mais dans la période qui vient, ce qu'on demande, c'est que si vous pouvez faire toutes vos tâches à distance, vous soyez en télétravail 5 jours sur 5.
Alors, quel est l'objectif très concrètement en termes de chiffres dès la semaine prochaine? Le pourcentage de télétravailleurs qu'il doit y avoir en France. C'est quoi ?
Écoutez, c'est tout ce qui peut être télétravaillé. Les études nous disent qu'en général, que c'est de l'ordre de 35 à 40% des postes qui peuvent être télétravaillés en totalité. Ensuite, ça dépend aussi si l'entreprise a le bon équipement informatique, des réseaux informatiques qui fonctionnent. Mais voilà, l'ordre de grandeur...
Et on en est à combien, là, aujourd'hui ?
Moi, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui. On va regarder...
En septembre, c'était 1 sur 10, hein, c'était 10.
Non. C'était
ça, vous n'y croyez
12%
pas,
les études qu'on avait faites en septembre, avant toutes ces consignes, 12% des heures étaient télétravaillées, ce qui veut dire qu'à peu près 30% des salariés étaient en télétravail.
Amélie Carouet. Les salariés, vous dites qu'il faut faire confiance aux entreprises, qu'on peut leur faire confiance, on peut parler à son manager. Mais ceci dit, quel recours pour des salariés qui se retrouvent face à des chefs qui leur disent ben non, vous venez travailler quand même si les conditions ne sont pas réunies. C'était une question qui s'était posée lors du premier confinement. Vous dites quoi à ces salariés ?
Je leur dis qu'ils peuvent contacter l'inspection du travail.
Franchement, vous allez penser qu'ils vont le faire dans cette période-là ?
Mais pourquoi pas ? Enfin, l'inspection du travail, elle est là pour conseiller, pour accompagner et pour contrôler. Donc il y a près de 2000 inspecteurs du travail qui interviennent en entreprise. On a 400 personnes qui peuvent faire un accueil téléphonique. S'il y a une difficulté, il faut contacter l'inspection du travail.
Et les salariés se sont signalés, il y a eu combien de contrôles après le premier confinement ?
Je vous dis, il y a eu 55 000 contrôles, 55 000 interventions de l'inspection du travail en entreprise, spécifiquement sur ces sujets de protocole sanitaire. On a eu 300 mises en demeure, donc ça veut dire...
Ça paraît peu, 300 mises en demeure.
Ça veut dire... Enfin, moi, je pense que chacun a peut-être autour de soi quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, mais ça veut dire que massivement, les employeurs, dont c'est la responsabilité, je pense qu'ils sont tous conscients que c'est leur responsabilité, massivement, ils respectent les règles.
Une question très concrète de Marion Mourgue.
Concrètement, les entreprises vont pouvoir aujourd'hui organiser des tests pour leurs salariés. Est-ce que vous allez compenser le coût que ça génère pour les entreprises ?
Non, écoutez, on répond à une demande des entreprises de pouvoir participer à la stratégie de dépistage massif qu'on veut mettre en place. C'est aussi quelque chose qui facilite la vie des salariés qui n'ont pas à aller dans un laboratoire pour se faire tester. Mais donc, c'est à la charge des entreprises qui veulent le faire. Elles doivent se procurer les tests. Donc, il s'agit de prendre des tests antigéniques, les tests qui ne nécessitent pas de passer par un laboratoire biologique
et des tests
pour
de
avoir les résultats.
Aussi.
Non, les tests de température, on ne recommande pas aux entreprises de faire des tests de température. Ensuite, ça peut être le cas avec les salariés volontaires. Je précise que pour les tests en entreprise, évidemment, c'est pour les salariés volontaires et c'est dans le respect du secret médical.
Alors, on en vient à ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont en chômage partiel. À ce jour, Elisabeth Borne, combien y a-t-il d'inscrits au chômage partiel dans notre pays ? Ils étaient 1 200 000 en septembre.
Alors, donc, comme vous le dites, je pense que c'est effectivement une protection très forte qu'on a mis en place au printemps pour permettre que les salariés restent dans les entreprises, même quand il n'y a pas d'activité. Vous savez que c'est près de 9 millions de salariés qui, au plus fort de la crise au printemps, ont été protégés par l'activité partielle. Ils étaient 1 100 000 au mois de septembre. Évidemment, au mois d'octobre, avec les couvre-feux, et au mois de novembre, avec le confinement, ce chiffre va remonter. Il y a beaucoup d'entreprises, parmi les 200 000 commerçants notamment, qui vont devoir fermer dans la période actuelle, qui ont contacté mes services. On avait 5 000 dépôts de dossiers la semaine passée. On est passé jeudi à 22 000 dépôts de dossiers en une journée, pour demander de l'activité partielle.
5 000 la semaine dernière, 22 000,
22 000
cette semaine
jeudi,
par jour.
Oui. Voilà.
Alors, en ce qui concerne l'activité partielle de longue durée, là, avez-vous les chiffres également ?
Alors, c'est un dispositif qui est fait pour permettre aux entreprises qui anticipent une baisse durable de leur activité de ne pas se séparer des salariés, de partager l'activité entre tous les salariés, jusqu'à 40% de baisse d'activité, et puis de former les salariés. Et ce dispositif, les entreprises s'en saisissent massivement. On est à 4300 accords couvrant plus de 300 000 salariés avec ces accords d'activité partielle de longue durée. Je pense que c'est vraiment un bouclier anti-licenciement. On garde les salariés et on les forme pendant le temps où ils ne travaillent pas.
Une question aussi très précise d'un internaute qui nous dit « Les chômeurs en fin de droit au mois d'octobre verront-ils leur indemnisation prolongée le temps du reconfinement ?»
C'est une disposition qui avait été prise au mois de mars, quand une très grande partie de l'économie était à l'arrêt. Là, vous avez compris qu'on souhaite que l'économie continue à tourner. Donc, ça n'est pas forcément les mêmes mesures qui seront prises pour ce nouveau confinement. On regarde très attentivement et on a des discussions avec les partenaires sociaux où on va regarder ce point
spécifiquement. Ça ne sera pas automatique, Elisabeth Borne.
Je suis en train de dire qu'il y a des secteurs qui recrutent. Vous savez, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent. Les métiers du soin, le BTP, l'industrie. Donc on a des secteurs qui recrutent et donc on n'est pas dans la situation qu'on a eue au printemps où l'activité économique s'était en quelque sorte figée.
Enfin, en tous les cas, vous ne pouvez pas demander dans une reconversion soudaine dans le BTP alors qu'il n'était pas dans cette forme.
Donc du coup, on va regarder spécifiquement la situation notamment de ceux qui ont enchaîné des contrats courts et qui n'ont pas pu le faire dans la période récente. On va regarder spécifiquement comment on peut les accompagner pour qu'ils soient effectivement bien protégés dans la période actuelle.
Marion Morgan.
Vous dites que nombre d'entreprises recrutent. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'évaluer le nombre de destructions d'emplois ? On sait qu'il y a un certain nombre de commerces ou d'entreprises qui sont obligées de fermer suite à ces confinements successifs.
Alors, on a eu 700 000 destructions d'emplois au premier semestre. On avait une situation qui était plutôt favorable, enfin en tout cas moins défavorable que ce qu'on aurait pu craindre sur le plan de l'emploi sur le troisième trimestre, vous savez que l'économie, et je pense que c'est aussi un message que moi je voudrais passer, notre économie a très bien rebondi au troisième trimestre. Et ça doit nous donner confiance sur le fait que si on applique bien les règles de ce confinement, si on peut reprendre une activité, notre économie, elle a la capacité de rebondir. Je vous dis, on était à 18% de croissance au troisième trimestre, et sur plus d'un million de chômeurs de catégorie A de plus qu'on avait eu au mois d'avril, on avait baissé de 720 000 au mois de septembre. Donc je pense qu'on a cette capacité de rebond, qu'on veut absolument protéger les emplois, c'est bien l'activité partielle qui doit le permettre, pour que notre économie puisse rebondir quand on sera sorti du confinement.
En même temps, vous dites en effet l'activité avait bien repris, au point peut-être que vous avez baissé la garde sur télétravail. Quand on vous entend, Elisabeth Borne, on se dit, mais pourquoi le télétravail n'a-t-il pas été maintenu massivement au mois de septembre ? Y a-t-il eu un relâchement de ce côté-là, notamment de votre côté ?
Attendez, je voudrais être très clair. Ça n'est pas au travail qu'on se contamine. Ensuite, on veut encourager le télétravail. Je le dis parce que, comme je l'ai indiqué, il y a un protocole nationale en entreprise qui impose des règles très strictes. Moi, je rappelle que dès le 1er septembre...
Pardon, à vous entendre, on ne se contamine ni dans les transports, ni au travail. On se contamine que chez soi. Et en même temps, on nous dit de rester chez soi. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend plus trop quand on entend cela. C'est bien au travail qu'il y a quand même un risque de contamination.
Non, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Le protocole national en entreprise, il est très strict. Depuis le 1er septembre, dès le 1er septembre, on avait imposé le port du masque quand vous êtes dans un espace de travail partagé. Et franchement, il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail.
Alors pourquoi faire du télétravail ? Si je suis votre raisonnement.
Oui, mais je peux répondre tout à fait. Pourquoi faire du télétravail ? Parce que c'est une chose d'être à son poste de travail. Pour s'y rendre, on a des déplacements. Ensuite, on se retrouve avec ses collègues en marge du travail. Et on sait que quand on retire le masque, par exemple pour un déjeuner entre collègues, c'est là qu'on peut se contaminer.
Alors, ce n'est pas seulement notre parole, c'est celle de professionnels de santé qui sont très suivis, très écoutés. Le professeur Karine Lacombe, encore dans Ouest France, on avait les outils, mais certains ont été mal appliqués. Il aurait fallu continuer massivement le télétravail en septembre. À part des grandes entreprises américaines, personne ne l'a fait. Les contaminations dans les entreprises ces deux derniers mois n'ont pas lieu lors du travail lui-même, mais lors des pauses déjeuner, des moments de convivialité. Et donc, le télétravail, la garde qui a été baissée, est pointée du doigt par ces professionnels.
Écoutez, c'est bien pour ça qu'on remet en place du télétravail, pour éviter ces interactions lors des pauses notamment. Moi, vous savez, je pense que j'entends ceux qui nous disent qu'on aurait pu faire différemment. Mmh. Je pense qu'on peut aussi se dire que tous les pays en Europe qui sont dans la même situation que nous auraient aussi pu faire différemment. Donc on essaye de faire au mieux. Moi, je vous dis que dès le 1er septembre, on a mis en place un protocole à un moment où l'épidémie n'était pas du tout repartie comme elle est aujourd'hui. Et on nous a dit à l'époque que c'était une contrainte forte de porter un masque tout le temps en entreprise. Donc on a fait au mieux des précautions qu'on a pu prendre. Et maintenant, on repasse effectivement à fond sur le télétravail.
Même si les scientifiques avaient prévu cette seconde vague, mais on en parlera tout à l'heure avec le professeur.
Et peut-être vous dire aussi, que moi, je le redis, ça a beaucoup d'avantages, le télétravail. Mais moi, j'ai entendu des salariés qui veulent aller travailler et auxquels on dit « Écoutez, non, ça ne va pas être possible pendant le confinement. On vous demande de rester chez vous. » Mais psychologiquement, ça n'est pas évident. Moi, je pense à ceux qui sont dans un petit studio, qui se disent qu'ils vont passer un mois en télétravail. Ça n'est pas évident non plus. Donc, il faut aussi qu'on prenne ça en compte. On en a parlé avec Olivier Véran. Je pense qu'on va renforcer le numéro vert qui donne des informations sur le Covid, mais aussi qui peut apporter une assistance psychologique. Il faut aussi avoir conscience que psychologiquement, ce n'est pas simple d'être dans son petit studio en télétravail 5 jours sur 5.
Oui, c'est exactement ce que les syndicats disent. D'où ces messages qu'on a du mal à comprendre au final. Marion Mourgue.
Le gouvernement prend des aides pour aider les entreprises, notamment au travers du plan de sauvegarde de l'emploi. Comment vous évitez les effets d'aubaine ? Comment vous évitez ceux qui pourraient en profiter ? On l'a vu pendant le premier confinement, avec des entreprises parfois avec la volonté de profiter un peu du système.
Alors, on fait beaucoup de contrôles. On a fait 300 000 contrôles a priori sur l'activité partielle, qui ont permis d'identifier 11 500 suspicions d'escroquerie.
11 500.
Évidemment,
300 000
contrôles. On a freiné, on n'a pas donné l'argent quand on a eu une suspicion d'escroquerie. Et puis, on a fait 55 000 contrôles a posteriori, qui se traduisent par un peu plus de 600 procédures de sanctions, qui visent des sanctions pénales pour les personnes qui ont...
Et un remboursement dans ces cas-là.
Oui, bien sûr. Mais vous voyez, le mieux, c'est de ne pas verser l'argent. Donc, c'est les 300 000 contrôles a priori qui ont permis de bloquer l'argent avant qu'il soit versé.
Mais ça, vous nous parlez sur le chômage partiel.
Oui.
Mais qu'en est-il des plans, les PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont en fait des formes de faillite aussi, quelque part. Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, que les entreprises profitent de cette crise pour faire ce qu'elles auraient pu faire avant et qu'elles n'ont pas fait, et se disent aujourd'hui, ben voilà, maintenant je peux parce que la crise économique est passée par là.
Alors vous savez, on est très vigilant sur les entreprises qui veulent engager une restructuration. Mes équipes, moi-même, on a beaucoup d'échanges avec des entreprises pour leur dire « Vous avez des baisses d'activité, nous avons des outils très puissants, notamment l'activité partielle de longue durée qui permettent de garder les salariés. » Et puis, les services du ministère du Travail sont aux côtés des salariés quand il y a un PSE pour vérifier la qualité du dialogue social. Et je rappelle que s'il n'y a pas d'accord, il faut encore que le protocole, que les accords soient homologués. Donc, on est extrêmement vigilants.
Est-ce qu'il y a des abus ? Est-ce que vous relevez des abus, Isabelle ?
Moi, je ne peux pas vous citer d'abus aujourd'hui. On est très vigilants. Je pense que les chefs d'entreprise le savent. et que la règle et l'objectif, il est clair, c'est de sauver le maximum d'emplois. Les 300 000 salariés protégés par un accord d'activité partielle de longue durée, ben je pense que c'est une très bonne chose. Ils vont pouvoir rester dans leurs entreprises et voilà, ça évite effectivement des licenciements dont on ne veut le moins possible.
Avez-vous une idée du taux de chômage à la fin de l'année ?
Moi, je ne vais pas faire de prévision. Ce que je vous dis, c'est qu'on se bat pied à pied avec un outil comme l'activité partielle de longue durée, pour garder au maximum les emplois.
Alors, si je reformule, est-ce que vous craignez une aggravation de la situation, en essayant de nommer quand même peut-être les choses ?
Évidemment, le reconfinement qui va toucher des entreprises qui avaient pu être fragilisées, c'est effectivement... Ça n'est pas une bonne nouvelle, vous pensez bien, pour l'emploi. Mais on a des outils puissants qui ont montré leur efficacité au printemps et dont je suis convaincue qu'ils vont aussi être très efficaces dans le reconfinement que nous sommes en train de vivre.
Marion Bourgue.
Est-ce que pour éviter les contaminations justement au sein du travail et au sein de notamment des hôpitaux, est-ce qu'il faut prendre un décret concernant le Covid pour...
Éviter les contaminations. Parce que vous avez pris un décret, et c'est ça qui est assez surprenant, qui fait que le Covid va être automatiquement reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants touchés par le virus et qui ont eu un besoin d'un apport d'oxygène. Uniquement s'ils ont eu un besoin d'un apport d'oxygène. Mais est-ce que ces termes de la reconnaissance de la Covid comme maladie pro vont changer ? Les médecins eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne connaissent pas cette maladie, Elisabeth Borne, et que l'oxygénation n'est pas forcément la seule conséquence qu'il peut y avoir et qui puisse justifier que ce soit une maladie professionnelle.
Donc, moi, je ne suis pas médecin. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet, il est discuté avec les partenaires sociaux, qui a effectivement une reconnaissance plus large quand on est sur les soignants et qu'il y aura une commission nationale qui examinera au cas par cas quand on a des gens...
Ce sera trop tard. Vous savez, c'est comme tout à l'heure, vous nous disiez sur le télétravail, on négocie. Sauf que là, vous allez ouvrir une négociation à partir de demain, c'est ce que vous nous confirmez, sur l'accord annuel, sur un accord national interprofessionnel sur le télétravail.
Alors, ce sont les partenaires sociaux qui négocient.
Ils vont négocier, mais ça va prendre des...
Non, mais attendez, le télétravail, il s'applique sans attendre cet accord. S'applique, c'est la règle. Quand on peut faire toutes ces tâches à distance, on télétravaille. Donc c'est maintenant, c'est pas au-delà de l'accord.
Sauf qu'il va y avoir une négociation plus globale.
Il va y avoir une négociation plus globale.
Pour l'après-Covid, c'est ça ?
Il va y avoir une négociation plus globale sur les règles à appliquer en général et spécifiquement dans la crise. Je pense que c'est important pour donner des repères aux entreprises et ça permettra de mieux accompagner les salariés. Mais le télétravail, il s'applique maintenant.
Amélie Carouer.
Alors, on apprend par la voix du ministre de l'Économie que les grandes surfaces pourraient devoir fermer les rayons de produits non essentiels. Voilà, ce serait satisfaisant comme on est loin d'un compromis, loin d'un équilibre. Chacun finalement est plus pénalisé.
Donc c'est une des réponses à critiques de distorsion de concurrence des petits commerçants. Je pense que les discussions, elles vont pouvoir se continuer dans les prochains jours pour qu'on trouve le bon équilibre. Moi, je préférerais que tout le monde puisse continuer son activité plutôt que de dire que personne ne le fait. Vous voyez, je pense que ça serait plus agréable pour les Français aussi. Je ne sais pas si c'est possible de trouver une bonne façon de permettre encore davantage aux petits commerçants de maintenir leur activité sans accueillir du public. En tout cas, voilà, il faut qu'on traite à la fois le maximum d'activité pour les petits commerçants, répondre à leurs inquiétudes sur la distorsion de concurrence, et ces discussions, elles vont se poursuivre dans les prochains jours.
Concrètement, dans 15 jours, on pourrait avoir une clause de revoyure si on voit que le système est ni égalitaire ni efficace pour les commerçants.
Enfin, je pense que sur l'égalité, on va s'efforcer d'y répondre plus vite. Évidemment, dans ce confinement, on a dit qu'on faisait un point tous les 15 jours. Si on a des signes d'amélioration, ça permettra d'avoir des règles moins strictes et ça répondra certainement aux attentes des petits commerçants.
Toute dernière question rapidement, parce que votre phrase fait beaucoup réagir, votre phrase disant « on ne se contamine pas au travail » fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Alex vous répond « alors pourquoi pousser pour le télétravail ? Ce n'est pas logique, c'est ce que je vous disais. »
Pour réduire les interactions quand on se déplace pour aller au travail et les interactions en marge du travail.
Et en même temps, les transports, eux, sont ouverts. Dernière chose, pourquoi encourager vos fonctionnaires ? On en parlait tout à l'heure, ils ne peuvent pas faire jouer un droit de retrait. Est-ce que vous montrez vraiment l'exemple en laissant les services publics ouverts ?
Mais vous savez, les services publics, par exemple, le service public de l'emploi, je pense que c'est fondamental qu'il soit ouvert dans la période qui vient. Donc je vous confirme que Pôle emploi, les missions locales qui accueillent des jeunes, continueront évidemment au maximum à distance, mais aussi en présence, en présentiel, comme on dit, à accueillir les demandeurs d'emploi qui ont besoin qu'on les aide.
Merci beaucoup, Elisabeth Borne, d'être venue à ce grand jury. On se retrouve dans quelques minutes avec le professeur Fontanet. À tout de suite.
Avec Jouet Club, vivez les émotions du Noël enchanté Disney à Disneyland Paris. Grâce à l'application Jouet Club, chassez les étoiles, tentez de remporter vos invitations magiques pour aller à Disneyland Paris et de nombreux autres cadeaux. Pour participer, rendez-vous dans les magasins et catalogues Jouet Club ou sur jouetclub.fr. Jouet Club ! Jeux sans obligation d'achat jusqu'au 2 novembre.
Bonjour, je suis le frère Yves Combo. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Vous pouvez me retrouver dans l'émission Le Jour du Seigneur, le dimanche matin, à la télévision. Le Jour du Seigneur permet à ceux qui ne peuvent plus se déplacer d'assister à la messe et donc de rester en communion avec l'Église. Le Jour du Seigneur leur apporte du réconfort, c'est un soutien spirituel. Et pour que ce lien perdure, nous avons besoin de vous. Contactez-nous pour plus de renseignements.
RTL 12h30. Les informations, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Peggy, bonjour à tous. Il faut que chacun soit responsable. Si des maires incitent les commerçants à ne pas respecter les règles, ça ne va pas dans le bon sens. Déclaration d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée ce midi du grand jury RTL Le Figaro LCI. La France entame aujourd'hui son troisième jour de reconfinement pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce lui que les grandes surfaces pourraient devoir fermer les rayons de produits non essentiels. Une attaque meurtrière cette nuit au Canada, à la fin de la soirée d'Halloween. Un homme armé d'une épée a tué deux personnes et fait cinq blessés dans le centre de Québec avant d'être interpellé. Il serait né en 1996 et s'est rendu aux policiers sans résister, d'après le journal Le Soleil, qui annonce que son geste aurait été planifié depuis un an et demi. À Lyon, aucune piste privilégiée pour le moment par les enquêteurs après l'attaque hier à l'arme à feu d'un prêtre orthodoxe. Un suspect est en garde à vue. Et puis trois jours après l'attaque au couteau à Nice, six personnes sont désormais en garde à vue. Hier, trois hommes ont été interpellés. Suspension jusqu'à mardi inclus du procès des attentats de janvier 2015. Le principal accusé est positif à la Covid-19. Les neuf autres détenus vont être testés. Le procès reprendra selon les résultats et l'état de santé des possibles malades. En sport, le football est la 9e journée de Ligue 1. À 21h, Lille reçoit Lyon. Ce sera à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Hier, le PSG s'est imposé à la Beaujoire 3-0. Et puis en rugby, la France termine 2e du tournoi Destination. Le 15 tricolore a remporté son match hier soir face à l'Irlande. La météo cet après-midi avec du soleil sur la moitié sud et un ciel plus chargé au nord avec des faibles pluies sur le nord-est en fin de journée. Les températures iront de 17 à 24 degrés. Les courses à Laval cet après-midi, départ à 15h15. Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 12, le 10, le 13, le 14, le 15, le 11, le 8 et le 16. La dernière minute de Dominique, c'est le 14. Le quintet, donc le 12, le 10, le 13, le 14, le 15, le 11, le 8 et le 16. Dans un instant, la deuxième partie du grand jury de Benjamin Sportouche avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet.
Ah, t'as l'air drôlement détendu, toi. Tu t'es mise au yoga ?
Non, même pas.
Mais vas-y, raconte, c'est quoi ?
En fait, je viens de souscrire au contrat de prévoyance CAP d'Agipi pour me protéger et protéger ma famille en cas de maladie, d'accident, d'invalidité.
Ah ouais, je comprends.
Avec le contrat de prévoyance CAP d'Agipi, protégez-vous et mettez vos proches à l'abri des aléas de la vie. Agipi, toujours innover pour mieux vous protéger. Rencontrez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Agipi, partenaire d'AXA.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron,
On est dans les choux, c'est ça ?
Ah bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, le chou-fleur est à 1,29€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,29€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Mais ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos 1550 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Je me sentais prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Alors je me suis inscrite sur Disons Demain, j'ai entré vélo dans mes centres d'intérêt, et voilà Philippe. Depuis, c'est balade tous les week-ends.
Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
RTL Le Figaro LCI, seconde partie. Invité aujourd'hui, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour professeur Fontanet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, épidémiologiste donc à l'Institut Pasteur. Vous avez connu le VIH, le SRAS, le Zika, l'hépatite C, j'en oublie certainement, et maintenant le Covid-19, ou la Covid-19. Autant dire que vous êtes un expert, un vrai, ce qui vous vaut d'être membre du conseil scientifique. Et pourtant, cela n'a pas suffi pour que l'exécutif entende vos alertes sur une seconde vague à venir. Vos paroles sont donc importantes aujourd'hui face à une inquiétude grandissante. À mes côtés, toujours Amélie Carouer de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro qui vous pose la première question.
Les chiffres étaient alarmants ces derniers jours. Est-ce que vous estimez qu'on est en train de reprendre le contrôle de la situation ?
Alors, il nous faudra 10 à 15 jours pour voir l'impact que les mesures qui viennent d'être prises aura. C'était comme d'ailleurs au moment du confinement du 17 mars. Hein, on a vu le nombre d'admissions à l'hôpital baisser après 11 jours dans toutes les régions de France. Et 11 jours, c'est la durée moyenne entre le moment où vous vous infectez et le moment où vous êtes hospitalisé quand vous faites une forme grave. Donc nous nous attendons de la même façon qu'entre 10 et 15 jours après le début de ce confinement, on commencera à avoir l'impact.
Même si on a eu l'impression hier que les chiffres commençaient à baisser avec l'effet du couvre-feu. Est-ce que ça, vous le confirmez ?
Alors, je reste sur les chiffres d'hospitalisation, les admissions à l'hôpital, parce que ça, ce sont des chiffres très fiables. Quand les gens doivent être hospitalisés, ils y vont. Les chiffres sur les nombres de cas dépendent vraiment de l'accès aux tests, du fait que les gens veuillent ou pas aller se faire tester, donc je ne les regarde pas tellement. C'est vraiment les admissions à l'hôpital, avec un délai de 10 à 15 jours, qui nous diront comment marche ce confinement.
Alors, professeur, rentrée des classes demain et déjà des appels à la grève de certains syndicats dénonçant un manque de place, d'espace dans les classes. Des professeurs, mais aussi des directeurs d'établissement disent qu'on ne peut pas aérer convenablement les salles de classe. Vous comprenez ces syndicats qui appellent à résister, qui lèvent le doigt en disant on n'est pas prêt, on ne fait pas ce qu'il faut à l'école aujourd'hui ?
Alors, la question des écoles est une des questions les plus difficiles. Je ne rentrerai pas dans tout le sujet qui est très important de décrochage scolaire, nécessité pour les enfants d'aller à l'école, l'impact économique que ça pourrait avoir, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise, l'épidémiologie, c'est qu'est-ce qu'on sait du risque de transmission chez les enfants. Et là, il y a deux catégories différentes. Il y a les adolescents, collège et lycée, où on sait qu'ils sont aussi susceptibles que les adultes et aussi contagieux que les adultes quand ils sont infectés. Heureusement, ils font des formes très peu graves de la maladie, mais ils sont vraiment contagieux. Et eux, étant adolescents, sont capables de se protéger avec des masques, en se lavant les mains. Et donc, tout le jeu ici sera vraiment de s'assurer que les mesures seront respectées et que les adolescents se les approprieront, parce que ça se passe aussi devant le lycée et le collège, et puis après, quand vous rentrez, vous sortez. Mais on sait que là, il y a un risque de transmission. Il y a eu quelques épidémies qui ont été documentées en France avant au terme de février, voyez, avant même le confinement, mais aussi au Chili, en Israël. À chaque fois, c'était dans des situations, néanmoins, où les mesures n'étaient pas respectées pour des raisons diverses et variées.
N'aurait-il pas fallu fermer les lycées, justement, puisque vous nous dites que ce n'est pas forcément respecté, qu'il y a un risque pour les enseignants ?
La question est un arbitrage entre sanitaire et, puisque je vous disais, les difficultés d'apprentissage, le décrochage scolaire, les problèmes économiques que ça pose, et je ne peux pas rentrer dans cet arbitrage, c'est l'arbitrage du politique. Pour les écoles primaires, que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder, ce qu'on sait, c'est que les enfants de moins de 11 ans sont probablement moins susceptibles et moins contagieux que ne le sont leurs aînés. Il y a néanmoins la possibilité que le virus circule dans les écoles primaires, probablement de façon silencieuse parce que les enfants sont très peu symptomatiques. Les bonnes nouvelles, c'est que les enseignants semblent peu touchés. La surveillance qui a été faite chez les enseignants partout dans le monde, on n'a pas vu une augmentation des cas chez les enseignants en contact des enfants dans le primaire ou dans les personnes qui s'occupent des enfants dans les crèches. Donc il semble que les enseignants arrivent à se protéger. En revanche, il est vrai que ces enfants, quand ils rentreront à leur domicile, où là on ne porte plus le masque et il n'y a plus la barrière physique, la distance physique, il y a un risque de contamination. Donc il faudra là aussi mettre en place une surveillance qui sera à la fois une surveillance de la circulation active du virus, ça c'est les tests PCR qu'on connaît ou les tests antigéniques, mais également une surveillance que j'appelle sérologique, qui vous dit qui a été infecté avec donc le dépistage des anticorps, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une évaluation au fur et à mesure qu'on avancera dans ce confinement de la circulation du virus dans les écoles.
Mais concrètement, c'est très angoissant pour un enfant de 6 ans d'avoir à porter le masque, c'est pas non plus évident pour lui de le garder toute la journée. Vous-même, en juin, vous étiez assez sceptique sur cette mesure. En vous écoutant, on a l'impression que ce n'est pas forcément efficace pour un enfant de 6 ans de l'avoir. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cette mesure ?
Alors, sur le port du masque chez les enfants qui ont au moins 6 ans, nous, en fait, la semaine dernière, on a consulté nos collègues européens pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques et usages. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands ont adopté le masque dès l'âge de 6 ans à l'école. Ça semble bien se passer. Donc, vous savez qu'en Asie, dans les pays d'Asie où ils ont plus la culture du masque, il y a même des ports du masque qui se font plus tôt. Mais vu le niveau de circulation du virus actuel, vu quand même l'idée qu'on a que des enfants de 6 à 11 ans qui seraient symptomatiques, légèrement symptomatiques, sont contagieux, leur faire porter le masque, bon, l'idéal, c'est bien sûr qu'ils n'aillent surtout pas à l'école s'ils ont des symptômes, mais s'ils sont sans symptômes et possiblement contagieux, leur faire porter le masque, à mon avis, ne représentera pas de difficulté. Les enfants ont des capacités d'adaptation remarquables. Et une fois de plus, nos voisins européens l'ont fait. Ils nous ont dit que pour l'instant, ça se passe très bien.
Mais on ne l'a pas fait à la rentrée de septembre, alors que du coup, on aurait peut-être pu le faire. Venons-en, professeur Fontanet, à la situation dans les hôpitaux. Jusqu'à quand pensez-vous qu'il y aura une saturation des urgences Covid?
Alors, la difficulté se posera surtout dans les lits d'hôpitaux et dans les lits de réanimation. Sur la base de la cinétique qui est déjà engagée, sur laquelle on ne peut plus revenir, hein, de personnes qui sont déjà infectées et qui termineront nécessairement à l'hôpital ou en réanimation parce qu'il n'y a pas de traitement pour bloquer cette progression, on s'attend à un pic des hospitalisations, je dirais, sur la deuxième semaine de novembre. Sur le pic de réanimation, c'est la troisième semaine de novembre. Et ensuite, on verra une décroissance qui fait qu'on ne reviendra au niveau qu'on a aujourd'hui que dans un mois. Donc on va avoir une période où ça va grimper, on ne peut pas l'empêcher. Ça va redescendre, revenir là où on est aujourd'hui, dans à peu près un mois. Je dirais qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il y a à peu près 4500 lits de réanimation qui sont occupés. On va monter à peu près jusqu'à 6000, peut-être un peu plus, si le confinement fonctionne bien. Et ça redescendra et on reviendra à la situation d'aujourd'hui dans un mois. Donc vous voyez qu'on a un mois très tendu.
Un mois très tendu, mais on a du mal. Enfin, est-ce qu'on peut se dire les choses encore une fois, Noël? Ce sera quoi, Noël, en France? Un Noël confiné? Travaillez-vous déjà sur ces scénarios? Avec quelles préconisations?
Alors, Noël, ce n'est pas la situation des hôpitaux elles-mêmes. Les hôpitaux, il y a un mois très très dur de toute façon. Et une fois de plus, comme je le disais, on va grimper de 4500 à 6000, redescendre. Donc,
voilà. On nous dit même jusqu'au 15 décembre.
Alors, on va revenir maintenant sur les infections qui concernent la circulation du virus en population. Ce qu'on prédit aujourd'hui, c'est que si le confinement fonctionne bien, c'est-à-dire que, pour vous donner une référence, quand on était au mois de mars, on a réussi à faire baisser ce nombre de reproductions de 3 à 0,7. Là, si on prend 0,8, 0,9, parce qu'on n'a pas un confinement aussi strict, on peut s'attendre à ce que, selon les régions françaises, parce que les dynamiques ne sont pas les mêmes dans les régions françaises, et puis le taux de personnes qui ont déjà été infectées n'est pas le même dans les différentes régions françaises. Mais si on, selon les régions françaises, on s'attend à un mois à une baisse de 65 à 80% des infections. Et il faudrait 2 mois pour baisser de 80 à 90%. Donc vous voyez bien qu'on arrive dans la période de Noël. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où on va avoir quand même contrôlé suffisamment le virus pour qu'on puisse commencer à relâcher sur certaines mesures. Et j'entendais toutes les conversations que vous venez d'avoir. Mais on arrivera dans la période de Noël avec une circulation encore importante du virus. Et donc, comme Olivier Le Véran disait très récemment, Noël ne sera pas un Noël comme les années précédentes.
Et c'est-à-dire, pardon, c'est quoi un Noël pour vous?
Ça veut simplement dire qu'on revient au principe de base de comment est-ce que les gens s'infectent. Alors, on sait aujourd'hui qu'on s'infecte avec des postillons. On sait aujourd'hui qu'on s'infecte avec des aérosols que vous émettez quand vous parlez, qui sont des particules très fines qui contiennent du virus et qui peuvent aller à distance. Et on s'infecte en touchant des surfaces contaminées et qui auraient pu être contaminées par des postillons, par exemple. Ce qui veut dire que pour vous protéger, vous portez un masque, vous respectez la distance physique, vous vous lavez les mains, vous ouvrez les fenêtres. Donc c'est les pratiques, ça. Après, c'est les contacts avec les gens qui feront...
Est-ce qu'on pourra aller se déplacer? Est-ce qu'on pourra aller voir sa famille ou pas?
Je reviens maintenant sur la suite. La suite, c'est vous respectez les gestes, je viens de les rappeler. Ensuite, quand vous êtes à risque, c'est quand vous êtes en contact avec quelqu'un et que ces gestes ne sont pas respectés. Donc imaginez toutes les situations où vous pourriez être en contact avec quelqu'un où les gestes ne seraient pas respectés et que cette personne, elle, ait été infectée pour une raison ou une autre, vous prenez un risque. Donc essayez maintenant d'imaginer comment vous allez passer Noël de façon à ce que vous minimisiez ces risques une fois que vous avez compris tous les principes que j'ai
dénoncés. Clairement, professeur, vous dites aujourd'hui aux familles, évitez d'aller voir les grands-parents, peut-être exceptionnellement passez-le chez vous, si je vous entends bien.
Il faut prendre toutes les mesures possibles pour minimiser ces contacts à risque où vous enlevez le masque et vous abolissez la distance physique où vous avez des contacts. Alors après, quand vous êtes dans votre milieu familial, la cellule familiale, le noyau dur, ben on les... oui, on enlève le masque, on ne respecte pas la distance physique. Quand vous vous retrouvez dans une situation de réunion familiale avec des gens qui viennent d'un peu partout, d'abord, vous la faites avec un nombre limité. S'il y a des personnes fragiles parmi vous, ces personnes doivent porter un masque, se tenir à distance, vous ouvrez les fenêtres, elles doivent se laver les mains régulièrement, et les autres, au besoin, peuvent les accompagner dans les mêmes gestes, parce que c'est comme ça que vous limiterez les transmissions.
Hors du masque en milieu familial. Marion Mourgue.
Vous dites qu'il faut au moins un mois pour que les choses s'arrangent. Emmanuel Macron a évoqué un confinement jusqu'au 1er décembre. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que, de toute façon, ce confinement d'un mois sera déjà trop juste et qu'il faut prolonger le confinement pour essayer d'avoir une situation meilleure sur le plan sanitaire?
Après, c'est une question de transition sur qu'est-ce qu'on fait si les chiffres... Il faut d'abord évaluer si le confinement, jusqu'à quel point il marche. Les chiffres que je vous ai donnés, une amélioration de 65 à 80%, donc de diminution du nombre d'infections selon les régions à un mois, sont sur la base d'un confinement où on aurait réduit notre nombre de reproductions de 3 à 0,8-0,9. On va faire cette première évaluation à un mois. Si on voit qu'on est bien dans les clous, à ce moment-là, on peut se dire, on peut essayer d'alléger quelques mesures pour rendre les choses plus supportables, parce qu'on est très conscient des difficultés que ça pose à la fois au niveau social, économique, pour beaucoup d'entre nous. Mais je ne peux pas encore vous dire de combien les allègements seront possibles, tant que, d'abord parce que c'est des décisions politiques qui prennent en compte non seulement les questions sanitaires, mais toutes les autres questions sociales et économiques dont on vient de discuter, et parce qu'on n'a pas encore pu faire cette évaluation.
Mais sur le moment, ça vous semble très possible que le confinement soit bien plus long qu'un mois?
Après, peut-être qu'il va changer de modalité. Vous voyez, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut alléger. Une fois de plus, identifier les lieux à risque qui continueront d'être des lieux de transmission pendant cette période où on a un confinement qui est assez lourd. Pour se dire, sur ces points-là, on ne lâche pas. Le reste, en revanche, on peut peut-être gagner du terrain.
Professeur, encore une fois, pour nommer les choses, est-ce que vous travaillez en ce moment sur le plan de déconfinement? Certains de vos collègues disent que ce plan de déconfinement est même plus important que le confinement en lui-même. Pensez la suite. Renaud Piarou disait l'autre jour qu'il envoie déjà ses notes à la direction des hôpitaux de Paris. Ça va passer par quoi? Alors, travaillez-vous dessus? Avec quelles préconisations, si vous pouvez nous en donner quelques lignes, au-delà du couvre-feu?
Alors, on travaille évidemment dessus, puisqu'on est de toute façon dans une, j'ai envie de dire, un exercice continu pour nous, qui s'adapte en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit, tiens, hop, on arrête. Non, on est toujours sur la brèche. L'enjeu pour nous maintenant va être de, entre guillemets, profiter de cette période où on espère qu'un contrôle permettra de faire baisser le nombre d'infections pour renforcer des éléments qui nous paraissent très importants sur cette période de sortie de confinement. Je reviens sur tout ce qui était le testé, tracé, isolé, qui est au cœur de la réponse aux épidémies et de toute épidémie, et où, qui ne sera possible que quand on aura atteint un nombre d'infections suffisamment bas pour que, logistiquement, on puisse le mettre en place, mais qui devra être renforcé parce qu'il n'est pas suffisamment efficace aujourd'hui.
Professeur,
ça, c'est par exemple une préconisation sur laquelle on travaille.
Alors justement, ça veut dire quoi, une préconisation sur l'isolement? Est-ce qu'il faut être plus contraignant? Est-ce qu'il faut des sanctions, d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui sont contaminés et qui ne sont pas confinés?
Le choix de prendre des sanctions ne relève pas de nous. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est essentiel que les personnes, dès qu'elles ont des symptômes, dès qu'elles ont été en contact avec une personne confirmée, contact connu, s'auto-isolent, organisent à partir de leur auto-isolement, qui n'est pas simplement rester chez eux, c'est auto-isoler par rapport au reste de leur famille, dans la mesure du possible. Je comprends bien que dans un habitat très réduit, c'est très difficile, mais la plupart du temps, il est quand même possible qu'elles puissent s'isoler dans une chambre et donc qu'elles prennent ces mesures, organisent leurs tests, confirment le fait d'avoir été infecté ou pas. Et puis ensuite, il y a tout le travail qu'il y a à faire sur retrouver les contacts de ces personnes, pas simplement celles avec qui elles auraient été en contact quand elles ont été, depuis qu'elles sont infectées, mais aussi et surtout, est-ce qu'elles n'auraient pas été dans un événement à l'origine de leur infection, événement, lui, qui s'apparenterait à ce qu'on appelle ces fameux clusters de cas, vous voyez, où beaucoup d'autres personnes auraient pu être contaminées. Et donc tout ça, ça
on
demande...
On est loin du compte, professeur, quand on vous entend. Quand...
Et tout ça, justement, ça demande une organisation que certains pays ont pu mettre en place. C'est des pays comme l'Allemagne, c'est des pays comme la Suisse, c'est des pays comme la Corée, qu'il faut repenser. Après, vous verrez que dans une période de circulation très intense du virus comme maintenant, on voit bien que la Suisse est en très grande difficulté et que l'Allemagne a du mal à tenir. Mais c'est vraiment ce type de mesure que nous, on est en train d'essayer de rendre possible par un travail avec les autorités de santé pour voir comment réorganiser ce testé, tracé, isolé.
Marion Morgue.
On comprend bien qu'on va devoir vivre durablement avec le virus, qu'il faut s'attendre à des vagues successives. Est-ce qu'on en sait plus sur la date d'un vaccin? On entend différents calendriers. Est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier un peu plus précis?
Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a 9 vaccins qui sont en phase 3, où on est en train d'évaluer pour voir s'ils sont efficaces. Chaque essai, c'est à peu près 30 000 personnes. 15 000 qui ont reçu le vaccin, 15 000 qui ont reçu un placebo. Les premiers résultats vont être disponibles début 2021. Moderna, un des vaccins fabriqués aux États-Unis, les annonce ses résultats pour décembre. On saura globalement dans les 2 premiers mois de 2021, parmi tous ces vaccins, lesquels déjà sont considérés comme sûrs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effets indésirables graves qui ont suivi l'administration du vaccin. Ça, c'est pour moi essentiel. On ne pourra utiliser un vaccin que s'il est sûr. Et puis ensuite, on verra s'ils ont une efficacité et quel est le degré d'efficacité. La FDA américaine a mis la barre à 50%, ce qui laisse entendre que le vaccin ne va pas être ce que les anglo-saxons appellent le magic bullet, le truc qui va nous débarrasser complètement de ce virus. Le vaccin, les premiers vaccins en tout cas, qui auront une efficacité partielle, qu'on peut voir arriver pour un pays comme la France plutôt au deuxième semestre 2021, parce qu'il va falloir les produire, ces vaccins. Vous voyez, au moment où vous dites le vaccin, on considère qu'il est efficace, il y a les autorisations réglementaires à prendre qui, bien sûr, vont être prises en accéléré compte tenu de la situation. Mais une fois de plus, il ne faudra jamais faire de compromis sur la sécurité du vaccin. Ça me paraît essentiel. Et ensuite, il faut le produire. Et ce vaccin, s'il est partiellement efficace, viendra quand même en complément d'autres mesures qui existent déjà. Mais on n'est pas en train de vous dire qu'au deuxième semestre 2021, on vaccinera tout le monde et que ce sera fini.
Là où on est peut-être un petit peu perdu, c'est qu'on a l'impression qu'on repart de zéro sur la question de l'immunité en ce moment. C'est-à-dire qu'on apprend qu'on peut s'affecter une deuxième fois, que ça peut même être plus grave la deuxième fois. On doute de la durée de l'immunité. Ça se dégraderait plus rapidement, par exemple, selon une étude anglaise chez les asymptomatiques et aussi les personnes âgées. Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce que ça ne remet pas aussi en question, au passage, le vaccin, les vaccins qui sont en cours d'étude?
Non, en fait, on ne part pas de zéro. Tout ça, faisait partie des scénarios possibles. Pour moi, ce qui est le plus vraisemblable, c'est que les gens qui ont fait des formes mineures de la maladie, qui se rapprochent de celles que donnent d'autres coronavirus qu'on appelle saisonniers, qui vous donnent des rhumes, des petits maux de gorge, ces gens-là auront, comme pour ces autres coronavirus, une immunité qui ne sera pas à vie. Pour les autres coronavirus, c'est un an. J'espère qu'on aura un peu plus, mais peut-être pas beaucoup plus. On n'a pas encore ce recul. Pour les gens qui ont fait des pneumopathies sévères, eux auront vraisemblablement une immunité plus longue. Et d'ailleurs, leur réponse, telle qu'elle est mesurée dans le sang par les anticorps, l'immunité cellulaire, est bien meilleure. Mais c'est là où je reviens au vaccin. C'est que ce qui nous sortira de tout ça, c'est pas de reposer sur cette fameuse immunité collective dont j'entends certains nous dire « laissons s'infecter pour atteindre les 50% pour que le virus s'arrête ». Parce que si on perd cette immunité après un an, il faudra chaque année réinfecter 50% de la population. Vous voyez un peu les dégâts. Donc, ce qui permettrait d'en sortir, c'est un vaccin, parce qu'un vaccin, on peut le redonner chaque année, comme on le fait pour la grippe.
Oui, mais sauf que vous nous dites que ce vaccin, c'est pas avant le second semestre 2021, qu'il ne concernera pas tout de suite toute la population. Donc, moi, j'ai envie de vous poser la question. Quand est-ce que les Français seront tous protégés de la Covid-19?
Eh bien, il faudra d'abord avoir un vaccin efficace et qu'on se revaccine. Et après, on verra. Je ne peux pas encore vous dire de façon certaine.
Ça peut prendre 2-3 ans.
Ça peut prendre du temps. Après, on est quand même dans une situation où on a des outils pour se protéger aujourd'hui. On sait comment ce virus se transmet. Et puis, le vaccin, comme je vous le dirais, c'est ce petit complément que rajoutera le vaccin peut faire une grosse différence. Il ne faut pas négliger ça. Et ça me permet de revenir sur quelque chose que je trouve absolument fondamental. On avait réussi jusqu'à présent, quand on regarde les chiffres qu'on avait en septembre, à diminuer nos contacts potentiellement infectants de 50%. C'est ce qu'on peut estimer quand on voit que le nombre de reproductions est descendu de 3 à 1,4. Il aurait fallu qu'on diminue nos contacts potentiellement infectants de 65%. Donc on passe de 50% à 65% pour que ce fameux nombre de reproductions descende en dessous de 1 et qu'on arrive à avoir le contrôle de l'épidémie. La marge à gagner, elle n'est pas énorme. Donc vous voyez, tout ce qui pourra se rajouter comme un vaccin, même partiellement efficace, aidera, mais surtout nos comportements, maintenant qu'on sait que la deuxième vague est là. Je veux dire, jusqu'à présent, je sais qu'au mois de septembre, le discours a été très parasité par beaucoup de gens qui se baladaient
votre
en disant...
Votre discours a été parasité.
Le discours a été parasité par des gens qui disaient « il n'y aura pas de deuxième vague, il a muté, etc. » Maintenant qu'on sait qu'il est là, je refais le même appel que nous faisions au mois de septembre, mais aussi au mois de juin, etc. Faisons attention à nos contacts. La marge à gagner, elle n'est pas énorme. Si on diminue nos contacts potentiellement infectants de 50 à 65%, on reprend le contrôle sur le virus. Et là, c'est à chacun de le faire. Les gestes barrières, je vous l'ai dit, réfléchissez à quand est-ce que vous enlevez votre masque et vous ne respectez pas les barrières physiques, que ce soit dans votre milieu amical, familial ou professionnel, et vous aurez la solution.
Le message est passé, j'espère qu'il sera entendu. Marion Mourgue.
Vous parliez aussi tout à l'heure des tests. Mais par exemple, les tests salivaires, on les attend encore. Visiblement, il y a du retard. Est-ce que vous savez combien de temps ça peut prendre et est-ce qu'ils seront prêts à un moment d'ici à la fin de l'année?
Donc la nouveauté, c'est les tests antigéniques, mais qui se font toujours sur un prélèvement nasopharyngé, qui permettent d'avoir un résultat en un quart d'heure, et donc devant vous. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un labo, donc ça c'est déjà très bien. Mais c'est un test par un test. Et puis c'est un tube dans le nez, c'est pas très agréable. Le test salivaire serait beaucoup plus agréable, mais la difficulté c'est que le virus est en moins grande concentration dans la salive. Donc on a plus de difficultés à le mettre en évidence. Pour l'instant, on se rend compte, notamment chez les gens qui n'ont pas de symptômes, qu'on peut passer à côté de beaucoup d'infections en cherchant le virus dans la salive, même quand des concentrations de virus sont assez importantes dans la salive. Donc il y a encore du travail à faire. Si je devais vraiment, alors là c'est boule de cristal, je vous dirais peut-être 2 mois, parce qu'il y a tellement d'équipes qui travaillent dessus et qui nous annoncent des progrès tous les jours, mais les communiqués de presse, on s'en méfie. Mais voilà, c'est un horizon possible pour ces tests à l'hiver.
Un nouveau point de fixation, à nouveau les EHPAD, beaucoup de clusters identifiés. Olivier Véran d'ailleurs ne dit pas le contraire aujourd'hui dans le journal du dimanche. La question c'est ce qu'on va faire maintenant, tout en prenant en compte la situation du printemps dernier, les EHPAD fermés, plus personne ne veut connaître ça à nouveau. Donc on fait quoi?
Alors c'est vraiment tout le drame des EHPAD, hein, qui est qu'à la fois les fermer, c'est condamner les personnes âgées à un isolement qui est pour certaines d'entre elles, je dirais presque mortel. Mmh. Et à l'inverse, les ouvrir, c'est prendre le risque d'introduire le virus qui se répand extrêmement vite dans les EHPAD. Mmh. Tout reposera sur, une fois de plus, le respect des mesures barrières des gens qui vont visiter, mais ils vont le faire quand ils viennent voir leur famille. Pour le personnel qui travaille dans les EHPAD, qui déjà a fait des efforts incroyables, je ne sais pas si vous avez vu ces EHPAD où des personnels acceptaient de vivre dans la résidence avec les personnes âgées pendant 1 mois pour éviter les contacts à l'extérieur. Donc, pour ces personnes-là, il faut les tester très régulièrement. Et la plupart l'acceptent, mais c'est vrai qu'elles vous disent que le test toutes les semaines, c'est dur. Mmh. Il y a aussi, et c'est pas dans les EHPAD, mais ça concerne les personnes âgées, quelque chose qui me paraît extrêmement important. Vous citiez une étude d'Angleterre qui vient d'être publiée cette semaine, où on trouve que les personnes qui font de l'aide à domicile ou du soin à domicile, eh bien, ont des taux d'infection 2 à 3 fois supérieurs au reste de la population. Ça veut dire que ces personnes-là, quand elles vont être au contact des personnes âgées, pour les aider, elles doivent se protéger, être extrêmement prudentes parce qu'elles représentent un risque. Et aussi, elles devraient être testées très régulièrement. Je pense que c'est très, très important pour éviter la contamination des personnes âgées.
Et alors, en fait, on parle de troisième vague, professeur Fontané, mais ça veut dire que cette deuxième vague, elle va juste durer tout l'hiver. C'est ça que vous, concrètement, vous nous dites?
Alors, pour moi, la question, c'est jamais compté en vagues. La question, elle est très simple. Mm-hmm. Tant que la moitié de la population ne sera pas immunisée, quand vous soulevez le couvercle, le virus ressort. Alors, est-ce que ça se fera en une vague? Si vous le soulevez complètement le couvercle, vous avez droit à une vague. Si vous soulevez un tout petit peu, ça remonte, vous refermez, ça redescend. Tant que 50% de la population ne sera pas immunisée, le virus continuera de circuler. Simplement, vous ne pouvez pas laisser les infections naturelles créer l'immunisation, parce que si vous avez 50% de la population française qui s'infecte, ça vous fera de 100 à 450 000 morts. On n'en veut pas. La seule façon d'atteindre cette immunité, c'est le vaccin.
Troisième question, une question d'un internaute, puisqu'il y a des questions très concrètes qui nous arrivent sur ce que vous nous dites. En juin, nous dit Justin, on nous a dit « tout va bien, vous pouvez aller en vacances ». On est parti en vacances et voilà ce qui arrive. Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la parole, nous dit-il, des politiciens et des médecins? Le voilà en plein désarroi, Justin.
Alors, ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que le mois de juin qui était en post-confinement, on est sorti de confinement à la mi-mai, c'est bien passé. Le virus était contrôlé au mois de juin. Quand on regarde les mesures de nombre de cas, on avait ce fameux R inférieur à 1, il était à 0,9, on contrôlait l'épidémie. Tout a commencé à malheureusement se détériorer pendant les vacances, un peu au mois de juillet, beaucoup plus au mois d'août. Mais la difficulté, c'est que cette augmentation du nombre de cas, c'est ce qu'on appelle une exponentielle. Quand vous partez d'en bas, vous ne voyez rien. Aujourd'hui, ce serait un trait quand vous regarderez les courbes avec le nombre de cas d'aujourd'hui. Mais la tendance, elle existait. C'était une augmentation de 30% par semaine qui s'est poursuivie et qui est ressortie et est devenue visible fin septembre.
Une toute dernière question d'Amélie.
Alors les commerces, bien évidemment, on en parle énormément. Colère, fronde, inquiétude des commerçants, mais également de maires. Est-ce que vous comprenez ces commerçants? Est-ce que vous commencez même à rendre des notes, qui sait, auprès du gouvernement pour dire, OK, on peut peut-être aménager les choses, les simplifier, les faciliter dans telle ou telle condition? Vous dites non, pas de pause d'envoyure, on reste en l'état parce que la circulation est trop forte.
Professeur.
Alors, deux éléments de réponse, je vais aller vite.
Non.
Premier, plus on tape fort tôt, plus courtes seront les contraintes qu'on imposera. Maintenant, je comprends très bien la détresse des commerçants. Et deuxième partie de ma réponse, c'est tout est une histoire de flux de clients qui viennent, parce que c'est là où se font les rencontres et les risques. Des commerçants qui organisent la sécurité dans leur magasin ne posent pas de risque, c'est le flux des personnes qui y vont qui pose un risque. Et il faut qu'on joue collectif. Une fois de plus, si tous on joue le jeu, c'est-à-dire pas simplement les commerçants, mais les clients qui viennent les voir, pour être prudent, on y arrivera.
Et la ministre nous dit tout à l'heure, les entreprises ne sont pas des clusters, on n'est pas contaminé, ça a surpris. Qu'est-ce que vous dites à ça, très rapidement?
Je l'ai entendu dire que c'était effectivement pas nécessairement quand vous êtes à votre bureau au travail que vous êtes à risque, mais c'est la pause déjeuner qui pose un risque, c'est quand vous rencontrez vos collègues en marge, et effectivement c'est là aussi où il faut faire un effort.
Merci beaucoup professeur, merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.